Bonjour à chacun. Comment allez-vous? Bien. Est-ce que vous avez déjà eu dans la vie l'occasion d'avoir cette impression d'être totalement impuissant? Qu'en fait, la situation déborde tellement ce qu'on pourrait faire que vous regardez le 20h et puis vous voyez les images d'un ouragan qui vient de tout dévaster. Et puis finalement, quoi que je fasse, bah la situation va pas beaucoup changer. Vous pensez à la situation de tous ces gens en Afrique, de tous ces enfants qui sont mal nourris, qui sont exposés aux maladies. La détresse est évidente, mais en même temps, elle nous rappelle qu'on est incapable de changer les choses en profondeur et que nous sommes profondément impuissants devant plein de situations. Il y a un peu plus de 30 ans, on m'avait demandé de venir aider à la foire de Valence où il y avait un stand de la Bible. Et puis on était sur le stand et on n'était pas franchement occupé. Pas qu'il n'y avait pas beaucoup de monde, c'était noir de monde de partout, chez les vendeurs de canapés, chez les vendeurs de machines à café, chez les vendeurs de matelas. Ils avaient beaucoup de monde, nous, pas vraiment. Et je me souviens qu'on regardait la foule qui passait devant notre stand. Et j'étais avec un évangéliste et à un moment, il m'a dit « Mais je ne me sens pas bien. » Je dis « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Il me dit « Mais j'ai l'impression de voir des gens qui se précipitent en enfer et on ne peut rien y faire. On est là, ils ne nous voient pas, ils passent devant nous. » Et il était blanc. Et je me souviens qu'on a prié ensemble avec vraiment cette impression de dire mais qu'est-ce qu'on peut faire pour tous ces gens-là? Aujourd'hui, on va entamer une nouvelle série de prédications et nous allons à prendre le livre de Néhémie. Et c'est un livre qui nous parle du réveil. Le réveil, c'est l'intervention spécifique de Dieu pour transformer des vies en nombre et en profondeur. L'intervention spécifique de Dieu pour transformer des vies en nombre et en profondeur. Alors quand on prend le livre de Néhémie, aujourd'hui il est séparé d'un autre livre, du livre d'Esdras, mais au départ ces deux livres n'en formaient qu'un seul. Et en fait ces deux livres mis ensemble racontaient l'histoire du retour du peuple de Dieu après l'exil. En fait, vous vous souvenez, hein, Dieu a prévenu pendant très très longtemps son peuple en leur disant « Mais si vous continuez à pas suivre mes commandements, si vous continuez à me renier, si vous continuez à marcher selon vos voies, un jour vous serez dispersés sur la surface de la terre. » Et en fait, ce jour est arrivé avec le roi babylonien Nabuchodonosor qui vient, qui envahit Jérusalem et qui emporte en exil les Juifs. Puis Dieu avait prévenu qu'il y aurait un temps de 70 ans et puis qu'ensuite, il y aurait un retour. Et ce retour ne s'est pas fait brutalement, il s'est fait en plusieurs phases. Et en fait, ces livres d'Esdras, Néhémie, sont écrits pendant cette phase de retour. Et en fait, l'auteur de ces livres essaye de nous montrer par la structure des livres qu'il y a trois grandes phases. Trois grandes phases avec trois grands personnages pour chacune de ces phases. En fait, il va toujours utiliser la même structure pour qu'on comprenne bien comment ça fonctionne. Il va toujours y avoir un décret d'un roi. Ce décret va être suivi par des gens qui retournent à Jérusalem avec une mission. Ces gens vont commencer à s'investir dans cette mission avec joie, avec courage. Il va y avoir des gens qui vont s'opposer à cette mission et la mission va réussir, mais pas franchement. Elle va atteindre en partie ses objectifs, mais on verra que c'est toujours un peu compliqué à la fin. Et en fait, on va avoir Zorobabel qui va partir avec certains et ils vont reconstruire le temple. Ensuite, on va avoir Esdras qui va partir une cinquantaine d'années plus tard et qui va restaurer la loi, qui va restaurer le culte, Mais là aussi, les choses vont pas super bien se passer sur la fin. Et ensuite, on va avoir Néhémie qui va y aller et qui va restaurer les murailles de Jérusalem et va s'en suivre un réveil. Et c'est ce livre de Néhémie que nous allons parcourir ensemble en ce début d'année. Néhémie vivait à environ 150 ans après l'exil de Babylone. Beaucoup de Juifs étaient déjà rentrés. Certains estiment 50 000 Juifs qui étaient déjà rentrés. Mais il faisait partie de ceux qui étaient encore là. En fait, c'était son pays de naissance. Il n'avait jamais connu Jérusalem. Lui était né en exil. En fait, au début du livre de Néhémie, nous sommes à Suse. Alors, ce n'est pas la capitale de l'apéritif. Hein. Je vous vois venir. En Suse, c'est en Iran. Et en fait, Suse, c'était un peu le fort Brégançon des rois perses. L'hiver, ils allaient passer un peu de temps là où il faisait beau. C'était une station balnéaire à Suse. Et ils avaient leur palais. Et c'était leur lieu de retraite en hiver. Et Néhémie, qui était ce juif, qui était issu de, on dirait aujourd'hui un homme issu de l'immigration, à qui la censure sociale a particulièrement réussi, étaient les chansons du roi. Là, il n'y a plus beaucoup des chansons, bon, il n'y a plus beaucoup de rois non plus. En fait, qu'est-ce que c'était que les chansons du roi? Les rois perses étaient des rois extrêmement puissants. Le roi Antaxerxès, qui règne à ce moment-là, est considéré comme l'homme le plus puissant du monde, avec une garde, une armée énorme, et quelqu'un qui était finalement assez en sécurité. Mais il craignait une chose. Il craignait une chose énormément, c'était d'être empoisonné. Et donc, il y avait quelqu'un qui se tenait auprès d'eux et qui, à chaque fois que le roi avait soif, devait goûter. Quel genre d'homme est-ce que vous mettriez à vos côtés pour boire votre vin si vous pensez que votre vie est sans arrêt menacée? En fait, ce juif immigré est quelqu'un qui a la confiance absolue du roi. Il est celui qui est toujours auprès du roi. À n'importe quelle heure du jour, quand le roi veut boire, il faut que Néhémie soit là. Sinon, le roi ne boit pas. Il a besoin de cet homme en qui il remet constamment sa vie pour pouvoir être assuré de continuer de vivre. Et c'était un homme qui avait énormément d'influence. C'était un homme qui avait la confiance et l'écoute du roi. Et en fait, aujourd'hui, on parlerait par exemple de quelqu'un comme l'amiral Bernard Rogel, qui est le chef d'état-major particulier du président de la République. Voilà un peu le statut qu'avait Néhémie à ce temps-là. Pas mal pour un fils de l'exil. Mais en fait, si Néhémie a vraiment brillamment réussi sa vie professionnelle dans la Perse, son cœur, lui, n'a pas oublié les siens. Et un jour, il y a un de ses frères, alors on ne sait pas trop si c'est son frère physique, son frère dans la chair, ou si c'est un frère juif, Hanani, qui revient du pays, et tout commence par cette simple question. Et comment ça va au pays? Comment ça va au pays? Et tout commence avec ça. Et je vous propose qu'on puisse lire le chapitre 1 du livre de Néhémie. Donc dans cette version, la seconde 21, nous sommes page 333. Pour situer, vous avez un roi, deux rois, un chronique, deux chroniques, Esdras, Néhémie. Néhémie, chapitre 1, au verset 1. Parole de Néhémie, fils de Hakalia. Durant le mois de Kisle, la 20e année du règne d'Antaxerxès, alors je me trouvais à Suse, la capitale. Hanani, l'un de mes frères, est arrivé avec quelques hommes de Juda. Je l'ai interrogé au sujet des Juifs rescapés de la déportation et au sujet de Jérusalem. Ils m'ont répondu : les rescapés de la déportation se trouvent là, dans la province, au comble du malheur et du déshonneur. La muraille de Jérusalem est pleine de brèches et ses portes ont été réduites en cendres. À cette nouvelle, Je me suis assis, j'ai pleuré, j'ai porté le deuil durant des jours, jeûnant et priant devant le Dieu du ciel. J'ai dit, Éternel, Dieu du ciel, Dieu grand et redoutable, toi qui conserves ton alliance et ta bonté à ceux qui t'aiment et qui respectent tes commandements, je t'en prie, prête-moi une oreille attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que moi, ton serviteur, je t'adresse en ce moment. Jour et nuit, j'intercède pour tes serviteurs, les Israélites en confessant leurs péchés, ce que nous avons commis contre toi. Oui, ma famille et moi, nous avons péché. C'est certain. Nous nous sommes mal comportés envers toi et nous n'avons pas respecté les commandements, les prescriptions et les règles que tu avais données à ton serviteur Moïse. Souviens-toi donc de la parole que tu as prononcée à ton serviteur Moïse de prononcer. Si vous vous montrez infidèle, je vous disperserai moi-même parmi les peuples. Mais si vous revenez à moi, si vous respectez mes commandements, si vous les mettez en pratique, alors même si vous êtes les exilés à l'extrémité du ciel, je vous rassemblerai de là et je vous ramènerai à l'endroit que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Ils sont tes serviteurs, ils sont ton peuple. Ce que tu as racheté par ta puissance et ta force. Seigneur, prête donc une oreille attentive à la prière de ton serviteur et à celle de tes serviteurs qui prennent plaisir à la crainte de ton nom. Donne du succès à la démarche de son serviteur. Permets-lui de gagner la compassion de cet homme. J'étais le responsable des boissons du roi. Je voudrais qu'on aborde ce texte au travers de deux points. Je voudrais qu'on voit dans ce texte un homme qui porte un fardeau et un homme qui prie. Nous l'avons dit, le peuple est au comble du malheur. En fait, la muraille est pleine de brèches, les portes sont brûlées. Et quand on va aller au chapitre 2 et que Néhémie va lui-même se rendre à Jérusalem et qu'il va le voir de ses propres yeux, il va dire mais c'est un champ de ruines. Jérusalem, la ville de Dieu, celle où il a fait construire son temple pour y résider au milieu de son peuple, cette ville qui était florissante au temps des grands rois David, Salomon, cette ville est ruinée et en fait sa ruine reflète l'état du peuple de Dieu. Il n'y a pas que les murs qui sont brisés. Le peuple est brisé avec la ville. Il est humilié. En fait, sous la conduite de Zorobabel, le temple a été restauré. Sous celle d'Esdras, des rapatriés arrivent plus nombreux. Le culte reprend, la loi réaffirmée. Et puis le peuple plein d'entrain entame à reconstruire les murailles. Et là, de 3-10 à Antaxerxès, il dit, écoute, tu as vu ce qui se passe à Jérusalem? Tu as vu qu'ils sont en train de reconstruire les murailles? Et tu crois qu'après, ils vont encore continuer à payer les impôts? Et tu crois qu'après, ils vont encore continuer à t'obéir? Et Antaxerxès entame une répression. Et les murailles, non seulement sont arrêtées, les travaux, mais même au contraire, elles sont dans un état plus déplorable que jamais. Et le peuple est à Jérusalem et il est désemparé. Il est humilié. Une ville, les forteresses de la ville, ça représentait sa puissance, sa stabilité, sa stature. Et là, tout est par terre. Le peuple est à Jérusalem, mais il est loin de Dieu. Néhémie, lui, il vit dans la présence du plus grand roi de l'époque. Il a sa confiance. Il ne connaît pas ces gens qui sont à Jérusalem à plus de 1000 kilomètres. Il ne les a jamais vus. Mais ils sont le peuple de son Dieu. Il est loin de Jérusalem, mais il est proche de Dieu. Et son cœur est touché. On a cette impression, quand on lit le texte, que la vie s'arrête brutalement. On est dit de ne pas toucher les micros. Et que, vous savez, il menait sa vie tranquillement auprès du roi, et puis tout d'un coup, plus rien. Il tombe à genoux et il prie. Ces mauvaises nouvelles, finalement, le déstabilisent. Elles remettent en perspective, elles remettent en cause sa réussite, son intégration à la cour du roi. Il entend ces nouvelles, il s'assoit. Tous les jours, il peut prendre le vin du roi, il peut le goûter, risquer sa vie pour cela. mais il est saisi parce que ses frères souffrent. Il s'assoit, il prie, il jeûne des jours durant. Et un peu comme nous l'avons fait il y a 15 jours, où nous avons vu des pistes à partir de la prière de Paul, de comment nous pouvons prier les uns pour les autres, entre frères et sœurs. Dans cette prière, j'aimerais que nous voyons ensemble aussi comment nous pouvons prier pour ceux qui sont désemparés parce qu'ils sont loin de Dieu. Néhémie, un homme qui prie. Et très souvent, en fait, quand on verra ce livre, on verra que Néhémie, c'est l'homme des prières éclairs. On lui pose une question, il prie, il répond. Et c'est vraiment les prières instantanées. Mais on n'est pas du tout dans ce contexte-là ici. En fait, cet homme d'action, cet homme qui prend des décisions rapides, qui s'engage, qui mouille la chemise, qui est un homme de terrain, qui inspecte les murailles, qui coordonne les travaux, qui met lui-même la main à la pâte, s'assoit, prie, pendant 4 à 5 mois. C'est le temps que Néhémie va prier et jeûner avant qu'il voie une réponse à sa prière, avant le moment où c'est même le roi qui va venir le questionner. Pourquoi est-ce que Dieu a attendu 4 ou 5 mois avant de répondre à sa prière? Je n'en sais rien, et j'imagine que Néhémie ne le sait pas non plus, en fait. Quelquefois, Dieu laisse dégénérer une situation. Quelquefois, il nous forme pour que nous soyons prêts à affronter cette situation. Quelquefois, il nous apprend la patience. Mais dans tous les cas, ce qui nous permet d'attendre le temps de Dieu, c'est notre confiance dans sa souveraineté. Lorsque nous étions à Grenoble, il y a une dizaine d'années, il y avait un couple qui fréquentait l'église depuis bien plus longtemps que nous. Ils avaient 70 ans, quelque chose comme ça, tous les deux. Et ils fréquentaient l'église depuis qu'ils avaient une vingtaine d'années. Mais seule Marie était convertie. En fait, son mari, pendant plus de 50 ans, l'a accompagnée à tous les cultes, à toutes les réunions de prière. Il a blagué avec nous, il a participé aux agapes, il a repeint les murs de l'église. Mais il disait, c'est bien pour toi, mais c'est pas pour moi. Et pendant tout ce temps, sa femme priait. Sa femme, à toutes les réunions de prière, disait, priez pour mon mari. Parce que rien ne se passe. Ça fait 50 ans que je suis mariée avec lui, ça fait 50 ans que je prie pour lui. Mais elle avait confiance que Dieu pouvait encore agir. Et un jour, personne ne sait pourquoi, un jour il est venu voir les responsables de l'église. Il est venu dire, mais Dieu a touché mon cœur. Ce que je n'ai pas compris pendant 70 ans, je l'ai compris maintenant. J'ai compris que Jésus était mort pour moi. J'ai compris que j'étais un pécheur. J'ai compris que j'avais besoin du salut et je veux être baptisé. Et on l'a baptisé, je ne me souviens plus, il avait 73 ou 74 ans. Imaginez la joie de sa femme, sa confiance, sa persévérance en Dieu enfin récompensée. Tout ce temps où elle n'a jamais cessé de croire que Dieu pouvait toucher son mari. Tout ce temps où elle a patienté. Tout ce temps où elle a harcelé l'Église en disant « Priez pour mon mari ». Et maintenant, regardez. Regardez Néhémie quand il s'adresse à Dieu. C'est son expression favorite, éternel Dieu du ciel. En fait, c'est la façon dont on appelle Dieu quand on sait qu'il règne. Néhémie croit profondément que Dieu est souverain. Il est en train de travailler pour l'homme le plus puissant du monde. Il a toute sa confiance, mais il sait que ce n'est pas Antaxerxès qui règne, mais que c'est Dieu qui règne. Il n'y en a qu'un seul qui soit dans les cieux, un seul qui surpasse le roi de Perse, un seul qui soit pleinement souverain. Non seulement il attend patiemment, mais en plus nous comprenons à la lecture de ce chapitre qu'il sait que s'il est là où il est, ce n'est pas un hasard, mais la volonté de Dieu. 4 à 5 mois de prière et de jeûne. trois fois par an, nous essayons d'avoir un temps de jeûne ici, dans l'église, une soirée de jeûne. Alors c'est symbolique, mais en fait cela signifie pour nous que le temps que nous mettons à part, que le temps que nous prenons ensemble pour prier est plus important que le temps pour manger. Plutôt que d'avoir une fin de soirée ensemble, nous disons que nous voulons passer plus de temps et que nous voulons consacrer ce temps pour prier. Mais dans le cas de Jérémie, il y a aussi quelque chose qui s'ajoute. Il y a une marque d'humilité. Lui qui est un grand à la cour du roi, en jeûnant, il ne fait pas juste déléguer le problème à Dieu. Il n'est pas juste en train de dire « Il faudrait que tu t'occupes d'eux maintenant. » En fait, il dit « Cela me concerne. » Il me dit « Moi, je ne peux pas rester dans ma vie de confort, de palais où je peux manger à satiété. » Mais leur problème me concerne, moi. Je suis concerné par le malheur de mes frères. Et en fait, c'est le point de départ quand nous prions. Quand nous prions pour ceux qui nous entourent, ceux qui sont spirituellement morts, endormis, notre prière ne commence pas par tout ce que Dieu pourrait faire, par tout ce que les autres pourraient faire, mais par le fait que nous sommes au bon endroit. Nous sommes au bon endroit par la volonté de Dieu, parce que Dieu est souverain sur leur vie, mais aussi sur la nôtre. Que pouvons-nous faire pour eux? Commencer par prier, pour que Dieu nous donne, nous montre les circonstances dans lesquelles nous pourrons agir. Comme Néhémie, si notre cœur porte un fardeau, c'est parce que Dieu travaille dans nos cœurs. Imaginez-vous à la place de Néhémie quand il commence à réaliser ça, en fait. Et il y a de quoi avoir peur. Parce que Esdras a commencé avant lui. Et Antaxerxès a réprimé assez rapidement les travaux. Il y a de quoi d'avoir peur d'être à la bonne place. Il y a de quoi d'avoir peur d'être à l'endroit que Dieu a choisi que nous soyons. Mais regardez, que dit Néhémie? Qui est puissant et redoutable? Est-ce que c'est Antaxerxès? Non, ce n'est pas lui qu'il pense. C'est Dieu dans sa bouche. Celui qui est fort et redoutable, c'est Dieu. Et ce n'est pas en comptant sur ses forces que Néhémie va pouvoir aider ses frères et sœurs qui vivent dans la désolation, mais sur Dieu. Et ce n'est pas en comptant sur nos forces que nous pourrons agir envers ce que Dieu place sur notre chemin, mais encore une fois, sur Dieu qui est fort et puissant, sur notre Dieu qui nous équipe par son esprit. Deuxième point de cette prière. Néhémie prie selon la parole de Dieu. Et c'est assez marquant. La prière de Néhémie est enrichie par la connaissance de Dieu et de sa parole. En fait, l'un ne va pas sans l'autre. La parole est le moyen par lequel Dieu se fait connaître, le moyen par lequel Dieu s'est révélé et par lequel il se révèle encore. En fait, Néhémie connaît Dieu parce qu'il connaît les Écritures et il les cite. Et il cite cette affirmation de la fidélité de Dieu à son alliance. Et cette affirmation, on la retrouve tout au long des Écritures. Genèse 9, 15. « Je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous. Et tous les êtres vivants de toute chair, les eaux ne déverseront plus un déluge pour détruire la chair. » Exode 20, 6. « Moi qui fais miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. » Exode 34, 16. Dieu qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion, le péché, mais qui ne tient point coupable pour innocent et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 4e génération. Deutéronome 5, 10, moi qui fais miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Deutéronome 7, 10, c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu, ce Dieu fidèle garde son alliance, sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération, ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Deutéronome 9, etc. Jérémie ne fait que dire ce qu'il a compris de Dieu dans sa parole. Il prie un Dieu qu'il connaît parce qu'il cite sa parole. Mais Néhémie ne fait pas que citer la parole de Dieu dans sa prière. En fait, il la met immédiatement en pratique. Regardez au verset 6. Il dit maintenant, je t'en prie, écoute-moi, regarde, entends ma prière. Mais que dit-il ensuite? Il ne demande rien. Il ne demande absolument rien. Il dit, ouais, en fait, tu es fidèle à ceux qui gardent tes commandements. Et ça me rappelle que nous avons désobéi. Ça me rappelle que en fait, si nous sommes là dans cette situation, c'est pas toi le coupable. Il ne blâme pas Dieu de n'avoir rien fait. Il dit ton peuple t'a désobéi. Et je t'ai désobéi. Ma famille a désobéi. On a tous désobéi. Et je ne vaux pas mieux qu'eux. Ma réussite apparente n'est pas la marque de ma justice. Néhémie met la parole en pratique tout de suite dans le fait qu'elle le touche et qu'il confesse ses péchés, qu'il confesse les péchés du peuple, qu'il confesse que la situation présente n'est pas à blâmer pour Dieu, mais parce que les hommes n'ont pas gardé les commandements et que Dieu a fait ce qu'il avait dit. Ma famille et moi, nous avons péché. C'est certain, nous nous sommes mal comportés. Nous n'avons pas respecté tes commandements, tes prescriptions, tes règles. Nous avons échoué sur toute la ligne. Nous sommes choqués. Nous sommes choqués par l'état moral de notre pays à tous les niveaux. On peut penser au bouleversement sur les plans éthiques, peut-être plus particulièrement sur le plan social, sociétal. Nous sommes choqués par l'injustice de ce monde. Je pense au monde des affaires, au monde du travail. Nous sommes choqués par la façon de vivre des gens qui nous entourent. Et je pense aux mensonges, au travail au noir, qui se fait au grand jour. Les gens s'en vantent. Mais c'est pas normal. On est choqué quand on voit les familles qui sont ruinées, les divorces, les enfants qui en souffrent. Nous sommes choqués par ce qui se passe dans la société. Mais avons-nous le cœur brisé? Est-ce que nous pleurons sur nos voisins qui se déchirent? Est-ce que nous sommes solidaires, conscients que nous sommes, nous aussi, pécheurs? Que nous avons transgressé les mêmes commandements de Dieu? Que notre position, elle n'est pas liée à notre plus grande justice, mais au fait que quelqu'un est allé plus loin que Néhémie, que Jésus a pris sur lui nos fautes, qu'il a été mis, lui, en dehors de Jérusalem pour être crucifié et payé pour nous. Nous l'avons dit cet été, Dieu prend au sérieux ceux qui le prennent au sérieux. Et c'est exactement ce que fait Néhémie. Il dit à Dieu, voici, tu avais dit à Moïse que si nous étions infidèles, tu nous disperserais, et tu l'as fait. Mais tu avais dit aussi que si nous revenions à toi, tu nous rassemblerais. Et il intercède exactement de la même façon que Moïse a prié pour le peuple lorsqu'il s'était fabriqué un veau d'or. Il lui dit, c'est ton peuple, c'est toi qui l'as racheté. Tu t'es engagé envers eux et je veux m'appuyer sur tes promesses. En fait, Néhémie reconnaît que si nous sommes le peuple de Dieu, ce n'est que par l'œuvre de Dieu. Que c'est Dieu lui-même qui les a arrachés à l'oppression de l'Égypte. Que rien dans ce qui les a libérés ne vient d'eux-mêmes. Il reconnaît que nous sommes le projet de Dieu. Un projet que Dieu mène selon sa volonté, selon ses termes, mais avec nous. Quand Néhémie a digéré tout cela, qu'est-ce qu'il se passe? Quand il a compris le sens des Écritures, quand il a compris le plan de Dieu pour son peuple, qu'est-ce qu'il se passe? Il prie. Maintenant, il prie. Et il demande une chose. À nouveau, il dit, Seigneur, écoute-moi. Voici ce que je te demande avec tous ceux qui te craignent. Je voudrais vous raconter une histoire que raconte Paul David Tripp dans son livre « Instrument dans les mains du Rédempteur ». Voici ce qu'il raconte. Un jour, j'ai reçu un appel de Samuel qui paraissait complètement affolé. Sa journée s'était passée sans incident. Réveil, travail habituel jusqu'à la fermeture, il se hâte de rentrer chez lui, retrouver sa famille. Et puis tout d'un coup, un homme désespéré l'aborde. Il lui raconte que sa vie se trouve dans un gâchis terrible et qu'il ne sait même pas où il va passer la nuit. Samuel l'amène chez lui dans le but de lui trouver de l'aide. Et il appelle son pasteur, Paul David Tripp. Il lui dit, « Paul, me dit-il, j'ai rencontré un homme qui a perdu son emploi, il s'est querellé avec sa femme et le voilà maintenant dans la rue. J'ai pensé le conduire chez toi pour que tu puisses l'aider, il en a vraiment besoin. Peux-tu nous recevoir tout de suite ?» Je me suis empressé de répondre avant que Samuel ne poursuive. L'amour de Dieu n'est-il pas étonnant, Samuel ? Dieu se soucie de cet homme et il a mis un enfant sur son chemin. Dieu s'intéresse également à toi et il te donne l'occasion de devenir un instrument entre ses mains. Je suis convaincu que Dieu ne se trompe jamais. Il ne se trompe jamais d'adresse ni de personne. S'il souhaite se servir de toi pour prêter d'assistance à quelqu'un, je vais prier à l'instant pour toi, afin que Dieu remplisse ton cœur de son amour et t'accorde sa sagesse. Ma prière terminée, Samuel a continué. Je ne crois pas vraiment être en mesure de... Je l'ai interrompu. Je prierai de nouveau pour toi ce soir, je t'appellerai demain. Ton ministère envers cet homme m'encourage vraiment. Je l'ai salué, j'ai raccroché. Au cours des semaines suivantes, déterminé à ne pas accomplir le travail à sa place, j'ai accompagné Samuel qui apprenait à aimer son ami découragé. Il a découvert comment devenir un instrument employé pour Dieu pour favoriser le changement ou la transformation dans la vie de quelqu'un. Tout au long du processus, Dieu a également opéré des transformations importantes dans sa vie, dans la vie de son épouse. Que dit Néhémie ? Donne du succès à la démarche de ton serviteur. Vous vous souvenez de ce que Paul a dit lorsqu'il prie pour les Thessaloniciens ? Vous savez, il y a tout un chapitre, vous pourrez retrouver ça, on a mis ça dans les programmes, on a mis un résumé, où il dit qu'il est reconnaissant du travail que Dieu fait chez les Thessaloniciens. Il dit, mais waouh, c'est incroyable, votre amour, votre foi, votre persévérance augmente, c'est génial. Et puis après, il prie une chose pour les Thessaloniciens. Que Dieu, par sa puissance, mène à leur accomplissement tout désir de faire le bien et toute œuvre de la foi. Il dit, mais vous avez des vies transformées, des désirs transformés, et ce que je prie, c'est que Dieu vous aide à accomplir ces désirs transformés. Et Néhémie fait pareil. Il a un fardeau pour ce peuple que Dieu lui a mis. Il se rappelle de qui est Dieu, de ce qu'il a fait, de comment les choses sont passées. Il comprend le plan de Dieu et il dit, ben, voilà ce que je te demande. Envoie-moi. J'ai compris ce que tu veux. Je comprends pourquoi je suis là. Regardez la conclusion de ce texte. La dernière phrase de cette, on dit, mais pourquoi il dit ça ? J'étais le responsable des boissons du roi. Je sais pourquoi je suis là. J'ai compris. Tu m'as placé ici pour que je puisse agir. Mais j'ai besoin de toi. Mais j'ai besoin de toi. Je suis là, mais j'ai besoin de toi. Je ne sais pas si Néhémie a réalisé tout de suite la portée de ce qu'il demandait à Dieu. Je ne sais pas s'il a anticipé quelle allait être la réponse de Dieu et comment il allait être embarqué effectivement dans cette histoire pour aller lui-même à Jérusalem pour coordonner les travaux, reconstruire les murailles. Peut-être qu'il pensait juste pouvoir intervenir auprès du roi pour qu'il puisse l'écouter et au moins relâcher un peu la pression sur le peuple. Quelqu'un disait, nous sommes souvent la réponse à nos prières. Si Dieu place un fardeau sur nos cœurs et pas sur celui d'un autre, c'est pas pour rien. C'est pour nous voir œuvrer pour lui. Pour que peut-être que nous soyons nous-mêmes à l'aube d'un réveil, à l'aube de l'intervention spécifique de Dieu pour transformer en profondeur un membre de notre famille, un voisin, un quartier, une ville, une région. Dieu nous désire participants à son plan qu'il met en œuvre depuis des milliers d'années. Et dans ce plan, il a utilisé des prophètes, des prêtres, des rois, des laïcs, comme Néhémie. Un exilé, quelqu'un que rien ne prédestinait à la réussite sociale, mais quelqu'un qui était prêt à abandonner cette réussite sociale pour servir Dieu. Les personnes, les situations changent, mais Dieu ne change pas. Vous savez pourquoi on lit ces textes de l'Ancien Testament ? Parce que c'est quand même assez vieux, Néhémie, hein ? Ça a été écrit assez longtemps. Qu'est-ce que nos situations ont à voir aujourd'hui? Nous avons le même Dieu qui continue toujours la même mission, racheter ceux qui sont perdus. Dieu poursuit toujours la même mission et il le fait toujours avec ses enfants. Il nous embarque toujours dans le même bateau dans lequel il a emmené Néhémie. Néhémie nous fait regarder vers Christ. Parce que Christ n'a pas seulement abandonné une position sociale élevée, mais lui qui était réellement le Dieu du ciel, fort et redoutable. Parce que son cœur avait un fardeau pour son peuple, il s'est abaissé jusqu'à nous. Il a pris la place la pire qu'il puisse exister sur cette terre, la honte du crucifié. Mais c'était beaucoup plus profond que cela. Ce n'était pas que la honte d'être crucifié, c'était la honte d'être devant Dieu en portant nos péchés. Lui le juste, lui le parfait, portait sur cette croix nos péchés. Sur cette croix, il a vaincu la mort et il nous appelle à le suivre. Si vous écoutez sa voix, vous comprendrez de mieux en mieux le prix payé pour vos vies. Vous comprendrez de mieux en mieux le fardeau que Dieu a eu pour vous. Et vous vivrez de mieux en mieux le fardeau de Dieu pour les perdus. Il y a 2 semaines, nous avons vu que nous pouvons prier les uns pour les autres, pour que Christ grandisse dans la vie de nos frères et sœurs. Et que Christ soit glorifié par nos actes renouvelés, par une foi, par un amour, par une persévérance qui grandit. Et je dois dire que nous sommes reconnaissants. On s'est rencontrés 2 fois, là, les anciens, pour préparer un petit peu la rentrée. Et en discutant de ce qui se passe, de ce qu'on voit, nous sommes profondément encouragés de voir l'engagement, la transformation que vivent certains parmi nous. Halluciné de voir ce que Dieu fait et de comment il le fait. De voir que des gens se lèvent, qu'on nous appelle le mercredi après-midi, mais tu as des Bibles à distribuer parce qu'on voudrait aller témoigner dans le quartier. De voir des gens qui ont dit, mais nous on voudrait qu'il y ait une église plus proche de chez nous. On voudrait témoigner pour notre quartier. Des gens qui s'engagent à droite et à gauche, qui le font avec un cœur entier pour Dieu et un amour des perdus. Nous voulons prier pour eux. Nous voulons prier avec eux. Nous voulons prier ensemble pour que Dieu nous montre pourquoi nous sommes là où nous sommes. Pourquoi est-ce que j'habite 2 rues du Sépio à Etup? Pourquoi est-ce que vous faites ce travail dans telle entreprise? Pourquoi est-ce que vous êtes à tel endroit? Qu'est-ce que Dieu est en train de faire dans sa souveraineté? Et je vous propose qu'on ait justement un temps de prière avec 2 axes. Un axe où nous remercions Dieu pour ce qu'il fait dans la vie de nos frères et sœurs et où nous reconnaissons que Dieu œuvre dans son Église. Et un temps où nous regardons plutôt vers nous-mêmes et nous disons, mais fais-moi grandir, envoie-moi, montre-moi ta volonté. Je veux te servir, je veux t'obéir. Si quelques-uns veulent prier, et puis je conclurai.